Voilà, eh bien, bonjour à nos auditeurs de Radio Maria, que je suis heureux de retrouver pour notre émission mensuelle de patristique sur les pères de l'Église, nos ancêtres dans la foi chrétienne. Vous vous souvenez sans doute que depuis le début de cette année, nous avons quitté la patristique grecque, hein, la partie orientale de la chrétienté, la partie est, hein, dans laquelle est née la foi, dans laquelle est né le Christ, et puis ensuite où la foi s'est le plus développée. Et nous avons abordé depuis le début de l'année, donc depuis septembre, la partie occidentale de la chrétienté et les pères latins, les pères qui écrivent, réfléchissent et prient en latin. Et nous avions pris la peine de souligner combien la situation culturelle, politique, spirituelle aussi, hein, est différente en Orient et en Occident. On est déjà en face de ce que Jean-Paul II appellera plus tard les deux poumons de la chrétienté, oui, mais chacun, d'une certaine manière, respire à son rythme, et puis de plus en plus va le faire de manière autonome. Et ça va être à partir du 5e siècle, des difficultés avant de devenir un drame de la chrétienté. C'est cette espèce d'hétérogénéité entre la partie grecque et la partie latine de la chrétienté. Hein, comme nous l'avions dit, les pères grecs ne parlent pas latin et donc ils ne connaîtront pas les élaborations théologiques et l'œuvre des pères latins, et en sens inverse, les pères latins de moins en moins parleront grec et donc se tiendront de moins en moins au courant de cet héritage grec et de la pensée chrétienne dans les zones grecques. Nous avons abordé un premier auteur, hein, de la patristique latine la fois dernière, qui est saint Hilaire de Poitiers. Et je voudrais aujourd'hui vous introduire dans un nouveau père de l'Église latine, beaucoup plus important qu'Hilaire, beaucoup plus connu du moins, qui est Ambroise de Milan. Ambroise qui a vécu entre 339 et 397. Hein, nous sommes donc en plein dans le 4e siècle, qui est, si vous vous en souvenez, un siècle où le christianisme peut enfin se développer sans être persécuté. Les persécutions romaines cessent dans l'Empire et on peut enfin s'atteler aux grandes questions théologiques également. 325, Concile de Nicée, 381, Concile de Constantinople I sur la divinité du Saint-Esprit. Comme on le voit, voyez, Ambroise est contemporain. Il naît peu de temps après le Concile de Nicée, et il est contemporain du Concile de Constantinople I. Alors, comment connaît-on sa vie? Eh bien, d'abord parce que lui-même a pu en dire, dans sa correspondance en particulier. Il y a une vie qui a été écrite par son secrétaire Paulin et Augustin, hein, qu'il a connu quand il était jeune converti à Milan, parle de lui également. D'une certaine manière, il a été le maître. Enfin, le maître, c'est peut-être un peu beaucoup de dire ça, il a été l'initiateur de la conversion, du lancement de Saint-Augustin. Nous savons donc qu'Ambroise est né à Trèves, Trèves en Allemagne, hein, une ville qui existe toujours en Allemagne avec de belles ruines romaines, Trier. Voilà. Pourquoi son père était préfet des Gaules, hein, donc un haut fonctionnaire d'une famille très, très en vue, et donc une fonction importante, hein, préfet des Gaules, vous imaginez ce que ça peut vouloir dire, hein, il gouverne un énorme territoire au nom de Rome. Une famille noble et chrétienne, on sait qu'une de ses sœurs, qui s'appelait Marceline, sera vierge consacrée. Il est éduqué à Rome et on le retrouve avocat, donc il fait vraisemblablement des études de droit, en 368, donc presque quand il a 29 ans, il exerce la fonction d'avocat, avant d'être nommé en 370. Il est donc encore jeune, hein, il a 31 ans, hein, gouverneur d'Émilie Ligurie. Alors l'Émilie Ligurie, c'est la zone qui correspond au nord-ouest de l'Italie actuelle. Vous voyez, la Ligurie, c'est la bande côtière, et l'Émilie, c'est un peu plus à l'intérieur des terres, avec un siège à Milan. Donc il se retrouve, comme vous le voyez, gouverneur très jeune, c'est-à-dire ça confirme à la fois que c'est une famille en vue, très bien vue du pouvoir, très active, hein, et en même temps des fonctions prestigieuses qui lui sont données alors qu'il est encore très jeune. Il est également célèbre pour ses démêlés avec le pouvoir public. Nous sommes dans une situation, hein, n'oublions pas, au IVe siècle, de décadence de l'Empire romain. L'Empire n'a plus la stabilité, la puissance qu'il avait avant. Les empereurs se succèdent parfois à un rythme accéléré. Le pouvoir n'est pas stable du tout. Et il faudra donc que Ambroise, qui est issu d'un milieu d'hommes politiques, hein, vous voyez, d'une grande famille politique, puisse négocier, composer avec les empereurs successifs, avec des fortunes diverses. Alors, qui a-t-il connu comme empereur ? Valentinien Ier, qui meurt en 375, Ambroise vient tout juste d'être évêque, ça fait un an. Le rapport est correct. Lui succède Gratien. Gratien est un fils spirituel d'Ambroise, donc la relation est idéale. Gratien se montre d'ailleurs fermement partisan, comme Ambroise, du credo de Nicée, mais il est assassiné en 383. Déception pour Ambroise. Lui succède l'empereur Maxime, qui est un usurpateur, puis l'empereur Valentinien II, qui a pour épouse une certaine Justine, qui est arienne. Là, ça se complique. Hein. Comme vous voyez, vous aviez des empereurs qui étaient tantôt orthodoxes, tantôt ariens. Hein. Voilà. Puis vient l'empereur Théodose. Alors Théodose, qui est encore aujourd'hui considéré comme des grands empereurs de cette époque-là, ferme et juste, hein, mais parfois un peu brusque, hein, dans ses méthodes, et Ambroise ne craindra pas de s'opposer à lui, de lui reprocher, voyez, certains de ses comportements qu'il avait trouvés trop violents. Par exemple, Théodose s'était rendu coupable d'un massacre, hein, d'opposants politiques à Thessalonique en Grèce, et Ambroise va lui imposer une pénitence publique, c'est-à-dire avant de lui permettre de revenir à l'église, de reparticiper à la liturgie et au sacrement, l'empereur devra faire une pénitence publique. C'est un acte extrêmement courageux, hein, de la part d'Ambroise, qui montre, vous voyez, l'aura dont il jouissait. Hein. Après Théodose vient l'empereur Eugène, qui est un usurpateur, puis l'empereur Honorius. Donc comme vous le voyez, il aura connu 6 ou 7 empereurs successifs, avec lesquels il faut composer. Hein, donc une situation publique très, très instable. Il luttera, Ambroise, contre le paganisme, là aussi, hein, rappelons-nous l'époque, hein, 4e siècle. Le christianisme est toléré comme religion publique, hein, pas encore officiel, mais public depuis 314, mais il y a encore des restes de religion païenne dans la vie publique, hein, et notamment au Sénat à Rome, on dirait aujourd'hui, Sénat c'est l'Assemblée nationale, hein, ou notre Sénat à nous, les sénateurs se réunissent devant une statue de la déesse Victoire, et Ambroise n'aura de cesse de demander que cette statue soit enlevée. Hein, maintenant que la majorité de l'Empire est chrétien, et puis que le christianisme devient religion officielle, avec Théodose, voyez, enlever cette statue qui signe un relan de paganisme. Voilà. À Milan, il se heurtera aux Ariens, hein, qui ne lâchent pas prise, avec un épisode assez intéressant, assez amusant, que je mentionne en passant. Hein. En fait, ces deux clans chrétiens, hein, le clan nicéen orthodoxe d'un côté, le clan arien hérétique de l'autre, ne cessaient de se disputer, hein, ne cessaient de revendiquer la primauté, et donc ne cessaient de vouloir annexer des églises. En fait, on faisait fréquemment le coup de main, vous voyez, contre une église de l'autre partie, on profitait de ce qu'ils étaient absents pour se l'approprier, pour l'occuper mali militari et la mettre au service de son propre parti. Voilà. Et il y a une basilique à Milan qui a été l'enjeu de ces revendications entre les deux parties, la basilique Porcia. Et on raconte que Ambroise a voulu éviter qu'elle soit annexée par les Ariens, appropriée par les Ariens, et a donc demandé aux chrétiens orthodoxes, aux chrétiens fidèles, de rester dans la basilique nuit et jour, aussi longtemps qu'il faudrait, pour éviter qu'elle soit annexée par les Ariens. Et comme il fallait bien occuper cette foule qui restait dans la basilique Porcia, il paraît qu'on les aurait fait chanter, et ce serait l'origine, je dis bien serait, hein, je le mets au conditionnel, ce serait l'origine du chant ambrosien. Hein. Comme vous savez, encore aujourd'hui, à Milan, il y a une liturgie particulière. Ça n'est pas tout à fait la même liturgie que ce que nous connaissons, nous, ailleurs, hein, qui remonte à la plus haute antiquité, notamment, au moins pour certains éléments, à Ambroise de Milan, et notamment le chant ambrosien, hein, qui aurait eu son origine, vous voyez, dans cet épisode de l'occupation de la basilique Porcia pour éviter qu'elle tombe aux mains des Ariens. Il meurt donc, je l'ai dit, en 397 avec une immense renommée. Hein. Et l'Église lui doit beaucoup. D'abord pour ses préoccupations anti-ariennes, son courage face au pouvoir politique, son soin pastoral de la population de Milan, son désir de développer l'Église dans le nord de l'Italie, et puis son activité de prédicateur et de théologien chrétien. Donc c'est un des grands pères de l'Église latine. Qu'a-t-il écrit? Quelle est son œuvre écrite après avoir vu sa vie? Ambroise a développé une intense activité pastorale, hein, sociale et politique. La datation de ses œuvres est parfois difficile. On lui doit surtout des sermons, ce qui montre bien sa préoccupation pastorale. Ça n'est pas un théologien original. Il faut bien le reconnaître. Pourquoi ? Il est essentiellement dépendant des pères grecs. En fait, on pourrait dire que le génie d'Ambroise, hein, va être non pas de développer une pensée personnelle, comme ce sera le cas pour saint Augustin, mais ça va être de connaître les pères grecs, de les traduire en latin, et puis de les faire connaître au public de l'Église parlant latin. Il a un style élégant, assez dense, assez concis. Hein, on sent quelqu'un qui a fait de bonnes études. Alors, catégorie de ses œuvres. Première catégorie, l'œuvre exégétique, hein, c'est-à-dire son commentaire de l'Écriture sainte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est très influencée par la méthode allégorique, hein, mise au point par les Anaxandrins, et en particulier par Philon d'abord, puis Origène pour les chrétiens ensuite. Donc, un commentaire de l'Écriture sainte suivant le triple sens, hein, sens littéral, sens théologique, sens moral, hein, et sens eschatologique. Et il se consacrera essentiellement à des commentaires de l'Ancien Testament. Il est plus à l'aise dans l'Ancien Testament. Parmi ces traités d'exégèse, donc l'Hexaméron, en 6 livres, c'est un commentaire de Genèse, hein, de la création, des 6 premiers jours de la création. Hein. Hexa, 6, hein, et Méron, jour. Hein, donc c'est un commentaire du premier chapitre de la Genèse, des 6 premiers jours de la création. C'est très inspiré par Basile de Césarée et le stoïcisme. Divers traités, un traité sur qu'il a appelé le De Paradiso, c'est un traité sur le péché originel, un traité sur Caïn et Abel, un traité sur Noé, sur Abraham, 2 sermons sur la mort, quelques sermons sur Jacob et la béatitude. En fait, le seul ouvrage qu'on conserve de lui, tout cela, tout ce que je viens d'énumérer étant de l'Ancien Testament, tout ce qu'on conserve de lui pour le Nouveau Testament, c'est son commentaire de Luc, Saint-Luc, de l'Évangile de Saint-Luc, qui est complet, que nous avons en entier, et qui atteste, là encore, l'influence d'Origène, avec le triple sens de l'Écriture, et qui développe ce commentaire dans un sens anti-arien, hein, mais aussi anti-sabellien et anti-patripassianiste. Les sabelliens et les patripassiens étant, vous vous en souvenez, ceux qui disaient qu'en Dieu, il y a une seule personne, hein, qui nous apparaît tantôt comme le Père, tantôt comme le Fils, tantôt comme le Saint-Esprit, mais une seule personne. Voilà pour ces ouvrages exégétiques. Ouvrage d'ascétique. On a un traité sur le devoir des clercs, donc destiné aux clercs, hein, aux diacres, aux évêques et aux prêtres, en fait, qui est une déclinaison du De Officiis de Cicéron. Hein, Cicéron, évidemment, était un auteur païen, stoïcien païen. Hein, et il le reprend dans sa structure et Ambroise l'applique au clergé. Un traité sur la virginité, dédié à sa sœur Marceline, très inspiré du commentaire des cantiques par Origène, et un traité sur les veuves. Hein. Voilà, ça ne doit pas nous surprendre. Hein. En fait, à l'époque, hein, les grands monastères, les ordres religieux n'étaient pas encore en place. Donc, une femme qui sentait l'appel à la vie consacrée était soit vierge consacrée, soit veuve consacrée. Troisième catégorie, les ouvrages dogmatiques. Alors, j'en mentionne juste quelques-uns. Hein. Le De Fide ad Gratianum, qui date de 378, donc un traité sur la foi dédié à l'empereur Gratien, hein, dont nous avons dit qu'il était un des fils spirituels d'Ambroise. Voilà. Hein, donc, en fait, il est contre l'arianisme et il vise à montrer que le fils est bien égal au père. Un traité sur le Saint-Esprit en 381, tiens, ça ne doit pas nous surprendre, 381, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est la date du concile de Constantinople I qui s'est réuni justement pour débattre de cette question, est-ce que le Saint-Esprit est Dieu ou pas, hein, est-ce qu'il est Dieu à égalité avec le Père et le Fils, ou bien est-ce qu'il est un demi-dieu, est-ce qu'il est une énergie divine, etc. Hein. Et le concile de Constantinople I s'est réuni en 381 justement pour affirmer, hein, cette divinité du Saint-Esprit, et Ambroise compose l'année même, en 381, un traité pour appuyer ce qui s'est passé au concile de Constantinople I, et donc il veut montrer l'unité d'essence du Saint-Esprit avec le Père et le Fils. Là aussi, rien de bien neuf, hein, le traité du Saint-Esprit d'Ambroise suit d'assez près celui de Didyme d'Alexandrie et le fameux traité du Saint-Esprit de Basile de Césarée. Dernier ouvrage dogmatique, le De Incarnatione en 382, anti-arien, hein, et anti-apollinariste. Alors, anti-arien, nous savons maintenant par cœur ce que ça veut dire. Anti-apollinariste, petite révision, hein, nous l'avions déjà mentionné en parlant des pères grecs, Apollinaire de Laodicée, hein, c'est ce personnage qui disait que le Christ a bien un corps humain semblable au nôtre, né de la Vierge Marie, mort sur la croix, dans la Passion, mais que le Christ n'a pas d'âme humaine. En fait, sa divinité en tient lieu. Autrement dit, le Christ ne nous serait pas vraiment complètement semblable. Il serait physiquement semblable aux hommes, mais pas intérieurement par rapport à l'âme. Et cette hérésie, on l'appelle l'apollinarisme, qui consiste à dire que le Christ n'a pas d'âme, et le traité donc déincarnationné d'Ambroise montre que le Christ a bien pris une âme, pas simplement un corps humain, mais une âme humaine. Quatrième catégorie de ses œuvres, les œuvres de liturgie et de pastorale, un traité dont je vous dirai cette fois-ci ou la fois prochaine, en fonction du temps qui nous reste, quelques passages, un traité qui s'appelle le De Mysteriis et qui est souvent couplé avec le De Sacramentis, et les deux datent de 390. Ce sont deux petits traités, édités donc souvent ensemble, qui décrivent les sacrements de l'initiation chrétienne. Le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, qui était à l'époque, vous le savez, donné en une seule fois pendant la nuit pascale aux baptisés adultes, et donné en présence de l'évêque. Et en fait, ces deux petits ouvrages sont une collection de sermons qu'il a adressés aux nouveaux baptisés. C'est un petit livre très facilement lisible, très pédagogique, dans lequel il reprend ce qui s'est passé, vous voyez, dans les rites, pour en expliquer le sens, et il explique ce qui a été lu dans les lectures de l'Écriture sainte. Il a également écrit un traité De Penitentia, sur la pénitence, dans lequel il s'est opposé aux rigoristes de l'époque. Ça, voilà, nous l'avions déjà mentionné aussi, il y a eu une hésitation chez les pères des premiers siècles, pour savoir, est-ce que tous les péchés sont rémissibles ou pas? Est-ce que l'Église peut se permettre de remettre, au nom de la miséricorde divine d'une part, et au nom de sa mission propre d'autre part, est-ce que l'Église peut remettre tous les péchés ou pas? Est-ce qu'il y a des péchés qui sont tellement graves que l'Église ne peut pas les remettre? Et la question portait évidemment sur les trois péchés considérés comme les plus graves à l'époque, et dans l'absolu, qui était l'adultère, l'apostasie et le meurtre. Adultère, apostasie, meurtre, trois péchés très graves. Est-ce que l'Église peut les remettre ou bien est-ce que les pécheurs resteront avec ça sur les épaules jusqu'à la fin de leur vie? Et ça a été l'objet de gros débats. Certains disant non, l'Église ne peut pas les remettre, donc le pécheur reste avec ça. Il s'en expliquera avec Dieu, peut-être que Dieu lui fera miséricorde, mais nous, dans l'Église, nous ne pouvons pas remettre ses péchés. Et au contraire, une autre tendance qui consistait à dire, mais oui, l'Église est ministre de la miséricorde de Dieu, même pour les choses graves, et donc elle peut remettre, dans certaines conditions, ses péchés, même les plus graves. Et Ambroise se situe dans la ligne plutôt bienveillante contre les rigoristes. Toujours dans la liturgie, il a écrit un certain nombre d'hymnes dont nous avons dit qu'ils s'enracinent peut-être, au moins pour certains, dans l'épisode du conflit de l'occupation de la basilique Portia. Certains disent même que l'exultet, le grand chant de joie de la vigile pascale, vous venez certainement, une fois qu'on a allumé le feu pascal devant l'église, on y allume le cierge pascal, on rentre en possession dans l'église, on installe le cierge pascal sur son chandelier et on chante l'exultet. Qu'exulte dans la nuit, la foule des anges, etc. Eh bien, cet hymne remonterait peut-être à saint Ambroise. Et enfin, dernière catégorie de ses œuvres, les discours et les lettres. On a deux oraisons funèbres, on conserve deux oraisons funèbres de lui. Qu'il a prononcée à l'occasion de la mort de son frère, qui s'appelait Satyre. Satyre, c'est un curieux prénom, Saint Satyre. Voilà. Bon, pour les satyres, c'est autre chose hein, dans la mythologie, comme vous le savez. Mais voilà, le prénom avait été repris par les chrétiens. Et Ambroise avait un frère qui s'appelait Satyre. Et donc, il a écrit une homélie, une oraison funèbre, à l'occasion de sa mort. Voilà. À Milan, hein, si vous allez à Milan, il y a encore aujourd'hui une église hein, qui s'appelle Santa Maria presso San Satyre. Sainte Marie près de Saint Satyre. Autrement dit, c'est une église dédiée à la Vierge Marie, mais qui correspond certainement au lieu de la sépulture de Saint Satyre, frère de Saint Ambroise. Voilà. Et une autre oraison funèbre sur la mort de Valentinien et de Théodose. Et il nous reste de lui 91 lettres. Qui sont souvent des lettres très, très pratiques hein, sur la vie de l'Église. Voilà pour son œuvre. Nous sommes en présence d'un homme qui est très, très intéressant, vous voyez, une personnalité équilibrée, posée, bienveillante, de grande culture et en même temps attentive à tous. Une personnalité attirante, hein, ferme, loyale, intègre. Et avec de grandes qualités de pasteur. Voilà. Encore une fois, il n'a pas été un grand théologien, c'est indéniable, mais il a été utile en faisant connaître et en adaptant au contexte latin les pères grecs, mais c'est une belle figure d'évêque, de pasteur, de prédicateur. Hein. Certains qui ont de la culture se poseront peut-être la question, me poseront peut-être la question, et l'ambrosiastère? Et l'ambrosiastère? Alors, qu'est-ce que c'est? Il faut être un peu, effectivement, au courant hein, de la littérature ancienne, mais le nom a peut-être été entendu par certains. L'ambrosiastère, c'est un commentaire des lettres de saint Paul, de 13 épîtres de saint Paul. Mise en situation avec une exégèse historico-littéraire, hein, sans beaucoup d'allégories. L'auteur est inconnu, mais on ne prête qu'aux riches, ça a été attribué à saint Ambroise. On est vraisemblablement, vous voyez, avec l'Ambrosiastère, le commentaire de ces 13 épîtres de saint Paul, dans une attribution qui n'est pas légitime. Et on en a déjà rencontré des cas comme ça, et nous en rencontrerons d'autres. Encore une fois, on ne prête qu'aux riches. Hein. On a des ouvrages qu'on a découverts qui sont anonymes, on les attribue à un grand auteur pour les mettre sous son patronage. Lorsqu'on étudie un peu plus cet Ambrosiastère, on s'aperçoit que l'auteur connaît très bien le judaïsme. On pense que c'est un juif converti, que ça a été écrit à Rome entre 350 et 390. On est donc dans un contemporain d'Ambroise, une origine plutôt grecque, hein, avec une tendance juridique, moraliste et rationaliste, qui n'est pas celle d'Ambroise habituellement. Hein. Donc en fait, l'Ambrosiastère, très vraisemblablement, n'est pas, malgré son nom, de saint Ambroise. Si on veut dire quelques mots pour conclure de la théologie hein, d'Ambroise, avant que je lise quelques petits passages hein, de son traité De Mysteriis et De Sacramentis, on peut dire que la Trinité, la Sainte Trinité, est au centre hein, de sa pensée, ce qui est normal, logique et bon pour un chrétien. Hein. Pour lui, la Sainte Trinité, c'est trois personnes consubstantielles, trois personnes égales. Hein. Encore une fois, il est anti-arien, hein, donc le Fils n'est pas inférieur au Père, il est égal au Père, consubstantiel au Père, comme le dit le Concile de Nicée. Et idem pour saint Ambroise de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est consubstantiel au Père et au Fils. Hein? Certes, le Concile de Constantinople I ne le dira pas de la même manière. On le dira indirectement. Hein? On dit et c'est ce que nous répétons encore aujourd'hui, chaque dimanche, il reçoit même adoration et même gloire, mais ça veut dire, d'une autre manière, qu'il est consubstantiel au Père et au Fils. Donc pour Ambroise, la Trinité, c'est bien trois personnes consubstantielles ayant chacune un rôle différent. Et dans l'œuvre de la Trinité ad extra, en fait, chaque personne accomplit en communion avec les deux autres quelque chose qui lui est propre. Hein. Il dira par exemple, le Père est créateur, hein, le Fils est rédempteur et le Saint-Esprit est sanctificateur. Le Père a créé le monde, le Fils, une fois que nous avons péché, s'est incarné pour nous racheter, pour nous donner le salut, et l'Esprit-Saint nous est donné pour nous sanctifier, hein, c'est-à-dire nous faire bénéficier de la rédemption du Christ et nous faire vivre dans la communion avec Dieu. Et ce sont bien trois personnes diverses, hein, différentes. De ce point de vue-là, Ambroise est très nettement anti-sabellien. Hein. Sabellianisme, encore une fois, c'est cette hérésie qui consistait à dire en Dieu, il y a une seule personne avec trois visages différents. Hein. En christologie, qu'est-ce qu'il nous dira ? Que le Christ a vraiment deux natures parfaites, et ça c'est parfaitement orthodoxe aussi. Hein. Il est vrai Dieu, comme le Père, consubstantiel au Père, et il est un homme complet, hein, avec un corps comme nous et avec une âme comme nous, contre Apollinaire de Laodicée. Le Christ, donc, est vrai Dieu et vrai homme. Et ça, c'est parfaitement juste. Il est notre médiateur, notre rédempteur, hein, et il est venu, lui, le Fils de Dieu, il s'est fait homme pour nous racheter. Adam avait péché, son péché s'est répercuté par hérédité sur les hommes, entraînant la mort physique et la mort spirituelle. Nous sommes soumis à partir de là à la loi du péché, et le Christ, Fils de Dieu fait homme, a annulé cette logique de la corruption du péché. Il a annulé les droits de Satan sur le monde, dira saint Ambroise. Alors ça, on peut mettre un petit bémol, hein, c'est une manière d'expliquer la rédemption avec laquelle l'Église a pris des distances ensuite. Voyez, avec cette idée que par son péché, l'homme s'est vendu au démon, donc le démon a des droits sur l'humanité, depuis le péché originel et depuis le péché personnel de chacun d'entre nous, nous appartenons au démon. Voilà. Et le Christ, lui, s'est fait homme, c'est le seul juste. Le démon s'est débrouillé pour faire mourir le Christ sur la croix. Il a commis une faute d'homicide par rapport au seul juste que l'humanité ait jamais porté, et donc il a perdu son pouvoir. Vous voyez, une manière d'expliquer la rédemption du monde qu'on trouve chez Ambroise, qu'on trouvera chez d'autres pères aussi hein, plus tard, mais qui est un peu curieuse, vous voyez, avec la théorie donc, du Christ, annulant les droits du démon sur le monde. Donc là, je mets un petit bémol. Voilà. Quoi qu'il en soit, la rédemption nous vaut une situation bien meilleure. Elle nous permet de recevoir le Saint-Esprit qui nous sanctifie et qui restaure en nous l'image de Dieu. Nous sommes justifiés. Hein. Il insistera sur le fait que c'est la foi qui nous justifie sans les œuvres de la loi. Hein, par lesquels il entend les rites de la loi mosaïque. Mais attention, pour Ambroise, même si c'est la foi qui nous justifie, la morale garde sa valeur. Hein, la morale vient attester que notre foi n'est pas morte, mais qu'elle produit du fruit. Il insiste sur l'importance de la volonté de l'homme et du libre arbitre. Hein, avec la grâce de Dieu, l'homme est artisan de son propre sort. Quid du rapport aux autres ? Eh bien, les païens, il est regrettable qu'ils n'aient pas connu le Christ, mais ils peuvent connaître Dieu comme créateur par l'exercice naturel de leur raison. Hein ? Une thèse qu'on trouve déjà chez saint Paul dans l'Épître aux Romains, et qui sera canonisé beaucoup plus tard par le Concile de Vatican I. Voilà. Et les Juifs, eux, eh bien, en fait, pouvaient se justifier par la loi mosaïque, hein, mais évidemment, depuis que le Christ est venu, cette loi mosaïque n'existe plus et il faut maintenant passer par la foi pour être justifié. Et donc, c'est une invitation adressée aux Juifs à se convertir. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir, cette présentation un peu générale de Saint Ambroise. Et si vous le voulez bien, la fois prochaine, nous prendrons un petit moment pour lire quelques textes rapidement, hein, de Saint Ambroise. Et je passerai à l'auteur suivant, qui sera, après une introduction, qui sera Saint Jérôme. Hein, voilà, je vous donne donc rendez-vous le mois prochain pour la suite de Saint Ambroise et aborder ensemble Saint Jérôme.